Bonjour, Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Voici un nouvel épisode de notre balado, le service politique, avec Perrine Vasque, que vous avez appris à connaître ces derniers mois, puisqu'elle suit la campagne de Jean-Luc Mélenchon, elle l'a suivie partout. Elle a raconté les hauts et les bas de cette campagne dans les différents épisodes de ce balado. Et nous avons enregistré un épisode à Lille, hier soir, après la dernière réunion publique avant le premier tour de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, ça veut dire que si Jean-Luc Mélenchon, lors de sa troisième candidature présidentielle, n'est pas qualifié pour le second tour, eh bien, cette réunion publique à Lille, qui était retransmise par hologramme dans 11 autres villes et sur bfmtv.com, eh bien, cette réunion publique était peut-être la dernière réunion publique présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Et comme il a dit qu'il ne se représenterait peut-être pas aux législatives s'il n'est pas élu président de la République, eh bien, c'était peut-être le dernier grand discours de meeting de Jean-Luc Mélenchon. Perrine nous raconte tout ça dans cet épisode. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 avril, à 18 jours du choix des Français. Salut Perrine.
Salut Philippe.
Il est 22h34, nous venons de terminer une longue retransmission qui a duré plus de 3 heures avec toi au Grand Palais à Lille et Amandine Atalaya et moi ici à Paris pour faire vivre sur bfmtv.com ce dernier grand discours de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu'on a pensé, toi? On va parler de l'événement en lui-même parce que c'était retransmis par hologramme dans 11 autres villes, du discours qui était un discours assez important, intéressant. Et tu as dit tout à l'heure à l'antenne que c'était peut-être le meilleur discours de sa campagne, toi qui les as quasiment tous suivis. Qu'est-ce qui t'a frappé, toi, en un mot, de ce moment, de cette soirée, de cette dernière grande réunion publique de Jean-Luc Mélenchon?
En fait, c'est l'ambiance. Parce que tu vois, c'est vrai que les derniers grands meetings, il y avait beaucoup de monde, plusieurs dizaines de milliers de personnes. Mais j'ai pas senti cette ferveur, j'ai pas senti cette alchimie entre le candidat et la salle que j'ai senti ce soir. Alors peut-être, il y a deux hypothèses. Soit parce qu'on est dans le Nord et que les gens dans le Nord, on le sait, ils savent bien accueillir et ils sont chaleureux. Soit c'est parce que les autres meetings étaient en plein air et mine de rien, dans des conditions météo parfois un peu froides. Parfois. Et c'est vrai que c'est moins facile d'être dedans que quand t'es dans une salle fermée. J'en parlais d'ailleurs à Manuel Bompard, son directeur de campagne. Là, on sentait quand même une ferveur plus importante qu'à l'accoutumée, une salle qui réagissait beaucoup, beaucoup de jeunes, mais comme souvent. Et pourtant, honnêtement, dans la salle, on entendait mal le discours, il y avait beaucoup, beaucoup de résonance. Ces équipes nous l'ont dit, ils n'ont pas réussi à régler le problème. Alors apparemment, les journalistes étaient vraiment très mal placés, au centre, on entendait mieux. Mais malgré ça, je voyais vraiment les gens réagir au quart de tour dès qu'ils disaient quelque chose. Donc c'était réussi à ce niveau-là, en tout cas, au niveau de l'ambiance. Même si la salle n'était pas pleine, hein. Même si la salle n'était pas pleine, ils nous avaient annoncé entre 14 et 15 000 personnes. Et au final, Manuel Bompard, le directeur de campagne, me disait tout à l'heure en fin de meeting qu'ils estimaient qu'il y avait eu 12 000 personnes. Alors moi, je dirais plutôt 10 000. Mais malgré le fait qu'il restait des chaises vides au fond, il y avait une ambiance incroyable.
C'est-à-dire que quand tu étais en direct sur bfmtv.com et que tu jouais, enfin que la caméra montrait, panotait l'ensemble de la salle, comme c'est une salle que je connais puisqu'on y avait fait une retransmission d'un discours d'Éric Zemmour il y a 2 mois environ et que Éric Zemmour avait rassemblé environ 7-8 000 personnes, je voyais des endroits où il y avait des sièges remplis pour Jean-Luc Mélenchon, où il n'y avait pas de siège à l'époque pour Éric Zemmour, même si effectivement on voit que notamment au tout fond de la salle, il y avait des tribunes, des petites tribunes qui avaient été installées par Jean-Luc Mélenchon qui n'étaient pas remplies, mais elles n'étaient pas là, dans mon souvenir, pour Éric Zemmour. Je ne sais plus s'il y avait un rideau noir, mais en tout cas, je ne me souviens pas d'avoir vu ces tribunes en fond. Donc, ils ont peut-être vu un peu trop grand, mais sur l'ensemble entre Lille et les 11 autres villes où il y avait des retransmissions de ce discours, il y avait en tout 20 000 personnes, c'est ça ce qu'ils t'ont dit ?
Ouais, c'est ce qu'ils nous ont dit. En fait, il y avait des salles, comme par exemple à Trappes, où il y avait la capacité de 1000 personnes. Des salles à Montluçon, où il y avait un petit peu moins, 600 personnes. Mais on a vu des vidéos hein, pendant le meeting de ces salles, et visiblement, c'était quand même bien rempli. Et donc, ils estiment, eux, à 20 000 personnes. Et d'ailleurs, Manuel Bompard et Bastien Lachaud me disaient tout à l'heure, Bastien Lachaud, c'est le député de la France Insoumise qui organise un peu ces événements. Je défie quiconque, quelle que soit l'organisation politique aujourd'hui en France, de réussir à faire 11, 12 meetings simultanément et de réunir 20 000 personnes dans la même soirée.
Parce qu'il faut citer les 11 autres villes, Le Havre, Albertville, Besançon, Metz, Montluçon, Narbonne, Nice, Pau, Poitiers, Trappes et Vannes. Quand on trace ces villes sur une carte de France, comme on l'a fait à l'antenne aujourd'hui, on voit qu'il y a une répartition géographique assez équilibrée qui fait que n'importe quel habitant de l'Hexagone peut, à moins de 2 heures de route, se trouver sur un lieu de meeting de Jean-Luc Mélenchon, ou en tout cas là où était retransmis son hologramme. Et c'est vrai que quand ça a commencé et qu'on voyait, et tiens d'ailleurs, je suis en train de voir qu'on les joue exactement en ce moment à l'antenne dans l'émission de Maxime Soutek, l'image des 12 villes sur un grand panneau avec 12 cases sur les 12 villes, et la même image de Jean-Luc Mélenchon à 12 endroits différents via les hologrammes, ça avait de la gueule, quoi. Ça avait de la gueule. Ça faisait un peu, pour les plus vieux de nos auditeurs de ce podcast, ça faisait un peu l'Académie des Neufs. C'est l'émission d'Antenne 2 années 80, donc tu connais probablement pas.
Non, je connais pas.
Mais c'était assez étonnant en images. Et j'ai trouvé que c'est un classique des meetings de campagne, mais que la Marseillaise à la fin, la Marseillaise entonnée de concert dans 12 villes en même temps. Il y avait quelque chose, quoi. Il y avait quelque chose de l'événement. Ils avaient compris qu'il y avait un événement, enfin que l'événement avait été plutôt réussi. Et puis je crois aussi, alors nous on regardait ça depuis ici, depuis les studios, mais dis-moi, mais il y avait aussi une forme de moment d'émotion. En tout cas, on sentait quelque chose de cet ordre-là, parce que c'est la dernière grande réunion publique de la campagne. Que c'est la troisième campagne, enfin en tout cas avant le premier tour, que c'est la troisième campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon et qu'il a dit qu'il n'en ferait pas d'autres. Et que donc, si Jean-Luc Mélenchon n'est pas qualifié au second tour dimanche, c'est son dernier meeting présidentiel.
Oui, et alors ce qui est assez drôle et ce qui était complètement inattendu pour nous, c'est qu'en fait, il a donné rendez-vous entre les deux tours, le dimanche suivant le premier tour, au stade Charletti. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a tout de suite noté, évidemment, quand il dit ça. Voilà, il dit le dimanche après le premier tour, je vous donne rendez-vous au stade Charletti. On sera, je crois que sa phrase, c'est des millions à s'agglomérer pour montrer qu'on est déterminé à changer le monde. Et alors,
qu'il soit au second tour ou pas ?
Non, s'il est au second tour.
D'accord.
Et justement, je discutais avec ses équipes et qui me disaient qu'effectivement, ils ont pré-réservé le stade Charletti. Alors, c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de la Marseillaise. Nous, on ne l'a pas vu toutes ces 12 simultanées, mais déjà rien qu'ici, rien que dans la salle à Lille, effectivement, c'était assez prenant, quoi. C'était un moment, et puis même pour nous, hein, tu sais, tu sais ce que c'est quand tu es journaliste, tu suis pendant des mois un candidat, tu vas toutes les semaines dans une ville nouvelle. Là, bon, bah voilà, on sait aujourd'hui que c'est le dernier meeting de la campagne, en tout cas en attendant le premier tour.
Oui, quoi que tu penses du candidat, que tu sois, quoi que tu penses, quelles que soient les opinions politiques des uns et des autres, c'est forcément la fin aussi d'une épopée collective de journalistes qui ont fait le tour de France avec un candidat, quel qu'il soit.
Exactement, et puis du coup, ça me fait rebondir sur ce que nous disaient les militants, ce qu'on diffusait en direct tout à l'heure. Beaucoup de militants m'ont dit il manque peut-être une semaine pour essayer de grappiller ses points. Alors justement, j'en parlais à Manuel Bompard après, je lui disais ce que me disaient les militants, il me disait que non, que ce sera fait, que les gens avaient l'impression de ça parce que ça se rapprochait. Mais ce qui est drôle quand même, c'est que dans tous les militants qu'on a fait, il y avait certains militants qui étaient venus, et c'est souvent le cas dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon, des gens pas forcément convaincus, malgré ce qu'on pourrait croire, pas forcément convaincus à 100% d'emblée, mais qui viennent pour essayer de se faire une idée, de faire un choix. J'ai parlé à un jeune homme notamment qui, lui, hésitait entre Philippe Poutou et Jean-Luc Mélenchon. Donc il me disait, voilà, peut-être que ce soir le meeting va m'aider. Il y avait des gens qui hésitaient avec Yannick Jadot. Il y a des gens qui sont bien sûr convaincus, mais même les convaincus, bon, c'est vrai qu'on ne les sentait pas 100% sereins. Quand on leur demandait, est-ce que vous êtes sûr qu'il va aller au second tour ? Ils n'étaient pas 100% sereins, ils nous disaient « on va essayer », mais on sentait bien quand même que les sondages aujourd'hui sont un peu en deçà pour lui, quoi.
Bon, parlons maintenant de ce discours, qui était un bon discours, tu l'as dit tout à l'heure dans notre retransmission sur bfmtv.com, peut-être le meilleur discours de sa campagne. Ce qui était frappant, c'est qu'il a, et ça aussi dans une perspective de sondage, et en tout cas à l'approche du premier tour où il essaye de rattraper Marine Le Pen. Il a beaucoup tapé sur Marine Le Pen au début de son discours, avant de faire de même avec Emmanuel Macron. Et c'était assez inédit, en tout cas dans des meetings de ces dernières semaines.
Oui. De toute façon, il s'est mis vraiment à parler de ses opposants depuis Marseille, en fait. Hein, donc depuis fin mars.
Depuis 10 jours.
Avant, dans ses meetings de campagne, Jean-Luc Mélenchon ne parlait jamais de ses concurrents. Ce qui faisait d'ailleurs pour nous, journalistes politiques, parfois on manquait un peu de matière parce qu'on aime bien quand ils se tapent les uns sur les autres. Non, je plaisante. Politiquement,
ça donne du grain à moudre. Ça donne du grain à moudre.
Ça le situe, en plus surtout qu'il n'était pas forcément épargné par les critiques des autres, il répondait pas bon. Et là, depuis effectivement une dizaine de jours, on voit que vraiment, puisqu'il a pris cette décision d'essayer d'aller chercher les électeurs de... Je suis en train de monter dans le taxi pour tout te dire, pour rentrer
dans
notre hôtel. Puisqu'il a pris la décision d'aller chercher les électeurs de Marine Le Pen, ces fameux fâchés, pas fachos, cet électorat qui peut être poreux entre lui et Marine Le Pen, eh bien, il s'est mis à vraiment aller les chercher, d'abord en égrénant ses mesures sur le pouvoir d'achat. Voilà, lui, il opposait sa retraite à 60 ans à elle, qu'il ne voulait plus, le SMIC à 1400 euros, les prix bloqués, elle non, etc. Donc, il commençait comme ça. Et là, ce soir... Il n'a pas fait que ça, il ne s'est pas contenté entre guillemets de faire ça, il a vraiment tapé fort sur Marine Le Pen pendant, j'ai compté, 25 minutes de discours. C'est 25 premières minutes de discours où là il parle ouvertement à ses fâchés pas fachos justement pour aller les chercher. Et puis il tape sur Marine Le Pen, alors parfois avec des expressions qui font un peu rire, il dit « maintenant on nous dit qu'elle aime les chats, moi j'ai pas de chat, j'ai un cactus ». Et puis, ensuite, il va égrener toutes les lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale, sociétale, par exemple la loi des retraites, contre lesquelles les députés de la France insoumise se sont battus, on le sait, avec des milliards d'amendements déposés. Et il disait que Marine Le Pen, elle a été invisible pendant toute cette période, idem sur la loi contre les violences faites aux femmes. Donc là, vraiment, on a vu qu'il y avait une vraie volonté, non seulement d'aller la chercher sur ces mesures de pouvoir d'achat, parce qu'on sait que c'est vraiment sur ces mesures-là que ces deux électorats peuvent être pour eux, mais également maintenant... De taper sur elle pour leur dire attention, voyez ce qui va vous arriver si vous votez pour elle.
J'ai noté dans cette partie du discours cette phrase, je cite Jean-Luc Mélenchon, écoutez vous autres, les fâchés pas fachos, où trouvez-vous quoi que ce soit dans le discours de cette femme qui ne soit entièrement teinté de mépris, de classe? Et il avait dit d'ailleurs, donc il dit que Marine Le Pen mystifie ses électeurs, et il dit aussi, est-ce que vous y trouvez votre compte? On voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue entre eux autour de l'électorat populaire. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je vais retrouver tout de suite une phrase que prononce Marine Le Pen dans le Figaro de demain matin. Attends, je la retrouve, puisque c'est notre collègue Loïc Besson qui l'a ressorti de cette interview. Alors, Marine Le Pen explique en fait que... elle parle de Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon dans une même phrase. Je la cite. « Je suis confronté à deux candidats qui sont des candidats hémiplégiques. Éric Zemmour d'un côté et Jean-Luc Mélenchon de l'autre. » L'un, Éric Zemmour, ne s'intéresse qu'à la question, la protection civilisationnelle. Le second, Jean-Luc Mélenchon, ne s'intéresse qu'à la protection sociale. Je suis la candidate qui fait les deux. Et on voit bien que l'un comme l'autre, et Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, savent que leur sort et d'une certaine manière leur destin politique va se jouer aussi sur une capacité de mobilisation d'un électorat populaire qui peut être tenté par l'abstention, qui peut être mobilisé peut-être sur certains arguments dans les derniers jours autour d'une question sociale, autour d'une question pouvoir d'achat, niveau de vie, et qu'au fond, ils sont en concurrence sur une partie commune de l'électorat.
Oui, et puis là-dessus, Marine Le Pen, elle a pris de l'avance quand même sur Jean-Luc Mélenchon, parce qu'elle a été un petit peu obligée en début de campagne de se repositionner avec la présence d'Éric Zemmour. Et lorsque Mélenchon, en début de campagne, appuie très très fortement sur l'écologie, son meeting immersif à Nantes, il parle énormément d'écologie pour essayer de capter cette jeunesse radicale qui a une envie d'écologie à Yannick Jadot. Donc il tape très fort pour l'écologie. Et pendant ce temps-là, Marine Le Pen parle déjà, elle, du pouvoir d'achat. Et donc c'est vrai que sur cette question, elle a pris un peu d'avance. On en parlait avec les équipes du candidat qui le reconnaissaient. Et alors aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon essaye bien sûr de la prendre sur ce terrain-là, mais disons que dans la tête des électeurs aujourd'hui, Marine Le Pen, et on le voit d'ailleurs dans les sondages, c'est plus la candidate du pouvoir d'achat que Jean-Luc Mélenchon, même si pour l'insoumis, c'est une question cruciale dans son programme, etc. Mais comme il l'a moins mis en avant pendant des mois, effectivement, c'est ce qu'il dit. Alors, il parle aussi, Jean-Luc Mélenchon, depuis, je crois, Marseille, c'est là qu'il a eu cette formule, un déni de classe pour Emmanuel Macron et un déni de race pour Marine Le Pen. Ouais. Et il essaye justement de la rendre un peu inaccessible dans cette espèce d'élite du système. Il dit ce soir, quand ce que tu citais tout à l'heure, c'était tout en début de discours, effectivement, tu as raison. Et il dit, elle est éloignée de votre vie. Quand il est question de pouvoir d'achat, elle prend un air pincé et dit, je rends leur argent aux Français. Donc là, on voit très bien que ce créneau-là, il est disputé par les deux, même si, comme on le disait, il ne s'adresse pas tout à fait aux mêmes classes populaires. Très rurales chez Marine Le Pen, plutôt de villes moyennes et de quartiers populaires pour Jean-Luc Mélenchon.
Il y a une autre partie du discours qui était plutôt vers la fin, ou une sorte de jonction où, après avoir décrit son programme, sa vision de la société, il y avait des passages qui étaient près des passages philosophiques ou des passages de réflexion sur la société. Oui. Il est arrivé sur une partie plus politique et je cite, il évoque en fait la possibilité, l'horizon de dimanche soir et ce qui va lui permettre d'accéder dimanche soir au second tour, ou au contraire ce qui va l'empêcher d'y accéder. Je cite Jean-Luc Mélenchon, la dernière fois il nous a manqué 600 000 voix, c'est 6 voix par bureau de vote. Jospin en 2002, 2 voix par bureau de vote qui ont permis à Le Pen de passer devant Jospin à l'époque. On est tout près, dit Jean-Luc Mélenchon, on est tout près d'une grande bifurcation politique. Il y a quelque chose qui se joue dans ces prochains jours et le rapport de force politique, le climat politique, le débat public, peut-être même la capacité du président ou de la présidente à agir dans les 5 prochaines années, va beaucoup dépendre non seulement de l'ordre d'arrivée dimanche soir, et notamment dans ce tiercé qui semble être en tête dans les sondages, mais aussi du rapport de force et des écarts entre les uns et les autres. Il y a quelque chose d'important qui se joue aussi sur le rapport de force politique en France d'ici dimanche soir, ce match à 3, Macron, Le Pen, Mélenchon. Est-ce que cet ordre va rester le résultat va rester dans cet ordre-là, et quels seront les écarts?
Oui, et puis on a beaucoup dit en début de campagne, souviens-toi, ou même avant d'ailleurs, il y a 2-3 ans, on disait, est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne ferait pas sa campagne de trop aussi, parce qu'en fait, beaucoup le voyaient très bas. Hein. Certains ne voyaient même pas dépasser les 10%. Ouais. Donc on entendait un peu cette musique de dire, tiens, si après avoir fait plus de 19% en 2017, sa dernière campagne, il tombe à 6-7, ça va être pour lui une sortie qui ne sera pas du tout mémorable. Il aura abîmé son héritage. Là, on se dirige quand même vers des scores un peu plus haut, mais effectivement, pour lui, c'est pas la même chose s'il fait 16 que s'il fait 18.
Oui.
Mais quelle sera sa réaction si, encore une fois, à quelques voix près, il passe à côté du second tour? Peut-être que là, ce sera plus large, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est une question, je pense, qui doit le hanter. Et alors, dans ce meeting, il a dit quand même quelque chose dans son discours. Alors, j'en ai parlé à ses équipes qui m'ont dit que non, pas du tout, fallait rien y voir de spécial. Mais il a dit, je ne prépare pas d'autres élections, j'ai fait le job, j'ai pris ma part. Et là, on avait quand même l'impression de quelqu'un qui tournait une page et qui disait maintenant, en gros, c'est à vous. En tout cas, moi, le boulot est fait. Et après ça, on verra. On ne sait pas s'il se présentera aux législatives ou pas. Mais en tout cas, j'ai noté cette phrase qui sonnait presque comme un passage de témoin.
Oui. Et puis, enfin, on aura l'occasion d'en reparler dans de prochains épisodes du service politique. Mais si Jean-Luc Mélenchon n'est pas qualifié dimanche soir... s'ouvre une page de l'histoire politique de la gauche nouvelle, de reconstruction de la gauche avec un parti socialiste réduit à pas grand chose, avec une écologie politique qui existe, qui pèse, mais pas en capacité d'être le pôle de reconstruction de la gauche autour d'elle, et un héritage de Jean-Luc Mélenchon dont on ne sait pas très bien s'il va être repris par certains de ses héritiers ou s'il va être remis au centre du jeu, sans compter un parti communiste qui a retrouvé un petit peu de vigueur. Enfin voilà, on va, à partir de dimanche soir, si Jean-Luc Mélenchon n'est pas qualifié au second tour, entrer dans une phase de reconstruction à gauche, et certains dans différents partis ne seront pas mécontents de tourner la page Jean-Luc Mélenchon. Mais bon, c'est un autre sujet. On verra ça.
Oui, je pense,
soir.
Mais c'est vrai qu'il le disait, tu vois, hier dans une interview, il disait en même temps, parce que le journaliste qui l'interviewait lui disait, vous n'avez pas fait l'union à gauche, etc. Et lui disait, mais enfin, qu'est-ce que vous avez fait ces 5 dernières années? Vous n'avez pas réussi à rassembler, etc. Et lui dit, mais j'ai fait une force politique qui aujourd'hui est en tête. Donc, je pense pas que ça lui suffira comme satisfaction finalement d'avoir écrasé le PS, mais en tout cas, c'est sûr qu'en début de campagne, il y a encore 9 mois, on n'aurait peut-être pas parié pour ce scénario-là et pour ce score-là du côté de Jean-Luc Mélenchon.
Bon, tu es arrivé à ton hôtel ?
Écoute, je t'avoue qu'on n'a pas mangé, donc là on est sur la grande place
manger.
De Lille. On cherche un petit restaurant.
Tu vas vers Riour. Riour, c'est à côté, c'est une petite rue. Tu vas vers Riour, il y a des endroits et des brasseries où on mange de très bonnes moules.
Et bien là, on est à la Chicorée, qui est apparemment une institution.
Mais très bien, la Chicorée est formidable. Formidable, moi j'adore Lille, j'ai habité à Lille, j'ai été étudiant à Lille, j'adore cette ville. Et la Chicorée, bon endroit.
Tu vois, c'est ça qui va nous manquer dans les campagnes. Parce que c'est quand même sympa ces moments.
Mais oui, parce que moi j'ai quand même été très frustré comme journaliste politique d'être coincé au bureau la plupart du temps ces derniers mois, quand vous étiez de ci de là, par moi et par vous, et que je vous appelais pour faire des épisodes du service politique le soir tard dans des villes un peu partout en France. Franchement, là je suis un peu jaloux, mais bon.
Là, je comprends. Toi, même si on a eu froid, même si on a eu la pluie, c'était quand même plaisant.
Mais c'est ça une campagne électorale, Périne.
Exactement.
Bon, merci Périne.
Merci,
salut.
Bonne soirée. Salut.
Salut, salut. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve demain.